On va commencer par cette midinale, en écoutant Aurélie et Nan qui sont venus nous parler. En gros, il y a un rassemblement prévu, je crois, samedi, contre la suppression ou le projet, un projet de loi dans lequel il y a la suppression de l'instruction en famille. Peut-être que vous pouvez expliquer déjà qu'est-ce que c'est l'instruction en famille. Et puis après, qu'est-ce que c'est que ce projet de loi Apparemment, il a changé de nom. Enfin, voilà. Qu'on essaye d'y voir un peu plus clair.
Ouais, on va essayer.
Impec.
L'instruction en famille, du coup, pour être très bref, c'est le fait de faire l'instruction à domicile et au sein de sa famille, quoi, à contrario des écoles publiques, privées, hors contrat, peu importe. C'est un des choix aujourd'hui d'instruction qui incombe aux familles, quoi. Voilà.
Oui, ça peut aussi l'instruction en famille, ça peut être en famille, ça peut être aussi en école hors contrat, qui ne sont pas sous contrat d'assos avec l'EN. Ça veut dire, t'as deux écoles publiques privées.
L'EN, c'est l'éducation nationale.
T'as deux écoles tradis et écoles publiques privées sous contrat, c'est-à-dire qui vont suivre le socle commun, les programmes de l'EN. Et tu as, en France, on a une liberté d'instruction qui peut te permettre, pour des choix de vie, pour des enfants qui sont parfois en besoin d'être entre guillemets, déscolarisé, soit c'est en famille avec un cours par correspondance, avec toi qui fais ce qu'on appelle apprentissage informel, ou dans des écoles hors contrat, qui ne sont pas sous contrat. Type école démocratique, type école Montessori, type école parentale. Donc, c'est des structures qui sont encadrées, il y a quand même des contrôles, tu déclares, c'est quand même pas rien de monter une école. Et donc, Monsieur Darmanin, en ce moment, donc, ce qui m'étonne, c'est que c'est un ministre de l'Intérieur et des Cultes qui porte un projet de loi, alors qui s'appelait avant déséparatisme. Et devant un peu le tollé général, parce que c'est quand même un mot qui est très fort, elle s'appelle confortant les principes républicains de protection de la laïcité. Et quand tu regardes le projet de loi, il y a un gros machin sur l'interdiction d'instruction en famille.
Et durcissement aussi et durcissement, de la création des écoles hors contrat.
Et ça veut dire qu'ils sont en train de limiter, alors c'est vraiment un peu bâtard, excusez-moi le terme, c'est que l'instruction en famille est zappée, on n'a plus le droit, sauf pour motif médical, et les écoles hors contrat devront passer un contrat avec l'EN, donc l'EN va autoriser au cas par cas certaines écoles hors contrat. Donc tu rentres sur un espèce de truc d'autorisation. Motif médical, ça veut dire quoi un enfant motif médical? Tu vas toucher sur un secret médical. On est quand même à affaire à un ministère, c'est quand même des agents publics. Et le fait de... Alors ils vont te dire, on interdit à la maison, mais vous pouvez le scolariser en école publique privée ou hors contrat. Donc c'est des espèces de trucs comme ça qui sont complètement hors normes et qui, de facto, fracassent une liberté d'instruction qui est quand même protégée depuis... par tous les textes, que ce soit la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État l'a plein de fois l'a reposé.
L'a retoqué,
Et là, on se dit, ils jouent sur les mots, et quand tu lis le projet de loi, en fait, ils enlèvent, parce que tu as, c'est ultra encadré, hein, t'as beaucoup de codes, tu as dans le code pénal des sanctions pénales, tu as dans le code de l'éducation un système qui est ultra, ultra réglementé. Et en fait, ils changent des petits mots. Quand tu lis ce qu'ils ont fait, ils virent mais des petits mots. Et on se dit, mais ils ont fait tout ça pour ça. Et comment vont-ils autoriser au cas par cas? Enfin, on parle de 25 000 enfants, tu vois, c'est 1,4%, même pas, je sais pas, tu vois. D'enfants qui sont d'esco, entre guillemets. Ça veut dire quoi de faire un amalgame entre IEF, enfants sous emprise radicalisée, et enfants en scolarité, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, prouvez-nous que les enfants qui sont SCO normaux vont pas le soir... quand ils veulent dans les écoles illégales de fête, tu vois. Et à contrario, prouvez-nous que tous les enfants en IEF sont radicalisés et sous emprise, tu vois, sectaire. En plus, tu as des lois d'emprise sectaire, il y a un paquet de lois qui existent sur le fait de pouvoir les tracer. Tu fermes les écoles de fête, elles peuvent être tout de suite fermées, tu as des sanctions pénales. Donc tout ça, nous, Aurélie et moi, mais d'autres gens, nous mobilisent et nous préoccupent vachement parce que faut pas que ça passe. Si ça passe, ils vont...
Mais du coup, pourquoi, à votre avis, pourquoi, en fait, je sais pas, si on prend... Donc, ce que je comprends, c'est que l'État, il dit... c'est un moyen de lutter contre la radicalisation avec toute la bêtise qu'il y a derrière, parce que voilà, il y a pas des, enfin vous rappelez les chiffres, le 0, machin, bah, oui, et en plus parmi ces 0, bidule, en fait il y a plein de gens qui ont plein d'autres raisons pour sortir leurs enfants de l'école.
Au sein de l'éducation nationale, il y a un vademécum qui sort tous les ans, là, celui d'octobre 2020 là, dit que les situations de radicalisation en tant qu'IEF sont exceptionnelles. C'est inscrit dedans, c'est l'éducation nationale qui le dit. Donc là, où est l'intérêt du coup de faire une loi pour interdire l'instruction en famille, puisque de toute façon ce sont des cas exceptionnels.
Mmh. Alors du coup, ma question c'était ça, qu'est-ce qu'il y a derrière du coup ?
Ils montent en épingle, tu sais, quand tu écoutes un petit peu. Moi ce qui m'étonne c'est que des annonces médiatiques depuis Paty, depuis certaines petites filles qui sont voilées. Il y a une espèce comme ça de folie médiatique sur le fait qu'il y a une partie des enfants hors radar. Tu vois, tu l'écoutes partout, ils sont hors radar, on les trouve pas. Tu dis, mais allô, quand tu regardes vraiment le contexte IEF, quand tu déclares ton gamin en IEF, tu préviens la mairie. La mairie prévient l'inspecteur, l'académie. Ils ont des chiffres. Tous les enfants qui ne sont pas déclarés ou en école ou IEF, donc ils sont absents, on va les chercher. Tu vois, ils ont tous les moyens, les dossiers, quand tu déclares, tu es inspecté par la mairie. La mairie fait un rapport qu'elle transmet à l'académie, à l'inspection, qui, elle, vient t'inspecter. Donc, tu vois, ils sont en rapport. Donc, ne me dites pas que vous n'avez pas les chiffres des enfants qui sont en radar.
Ouais, donc, après, si je comprends bien, c'est la question, c'est pourquoi est-ce que cette loi-là, elle sort maintenant et pourquoi on veut détruire l'IEF, quoi. L'IEF, et du coup, tu vois, il y a aussi le côté école hors contrat qui est aussi plus compliqué à ouvrir et plus facile, qui sera, si ça passe, plus compliqué à ouvrir et plus facile à fermer. Ouais. Franchement, là, j'ai pas vraiment de réponse, quoi. Je sais pas, peut-être le fait de penser autrement, parce que ces écoles hors contrat et le fait d'être en IEF, ça permet aussi d'ouvrir... les mentalités, de pratiquer d'autres formes de pédagogie. Enfin, pour nous, moi personnellement, chez nous, c'est les apprentissages informels, donc c'est des choses qui sont pas du tout, comment on va dire,
formelles.
Ouais, formelles, c'est sûr, mais pas du tout courant, quoi. Et ça permet peut-être une libre-pensance qu'on va pas retrouver dans les écoles publiques ou privées sous contrat, où on est vraiment dans quelque chose qui est formaté. Et je sais pas, c'est une idée, mais je peux pas.
Ouais, il y a sans doute de ça. Il y a peut-être aussi juste de brasser de l'air en faisant croire qu'on fait des choses pour lutter contre la société.
Oui, c'est ramener l'enfant au cœur de la République. Mais d'abord, l'éducation n'appartient pas à l'État. Le B.A.B.A. de l'éducation, ça s'appelle une délégation d'autorité parentale. Il n'y a qu'un juge qui peut te l'enlever. Donc ils veulent effectivement ramener au sein de la République certains enfants qui sont hors radar, ce que on peut le comprendre. Mais ils ont les moyens de les trouver. Ils ont les moyens de fermer des écoles... Je ne suis pas du tout dans une démarche, attention, ceux qui nous écoutent de religion, mais des écoles coraniques illégales, ça se trouve, ça se ferme. Bon, voilà, il y a tout le cas.
Non, ce que tu dis, en gros, c'est que s'il y a un enfant qui est en danger dans sa famille, parce que ça peut arriver, et qui n'est pas à l'école, ils ont tous les moyens.
Mais bien sûr, tu es inspecté.
C'est déjà.
Bien sûr, tu es inspecté.
Les moyens, et en plus, avec les lois. Enfin, l'année dernière, il y a la loi l'école pour la confiance qui a déjà durci tout ça, en fait, et qui n'est pas appliquée aujourd'hui. La loi, elle a un an, forcément, en un an, il faut tout mettre en œuvre pour appliquer, etc. Pourquoi, au bout d'un an, alors que la loi précédente n'est même pas appliquée, on veut encore la durcir ? Les outils légaux, ils sont déjà là. Ils existent déjà.
Ils sont
virulents, ouais. Si on chope une école clandestine, quelle qu'elle soit, ou des enfants qui ne sont pas déclarés, les parents risquent de la tôle, ils risquent des amendes fortes. C'est déjà le cas. Que ça va changer que cette loi-là le passe ? Ça va rien changer du tout, parce que peut-être même ce sera pire, parce que les enfants qui sont en IEF aujourd'hui déclarés, les familles qui déclarent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Bah, vont se retrouver pour pas mal hors radar, entre guillemets, comme ils aiment bien le dire, quoi. Parce que nous, on va pas forcer nos enfants à retourner à l'école. Enfin, bon, je sais pas si c'est bien de le dire ici ou quoi, mais en tout cas, beaucoup de personnes vont pas le faire, quoi. Mm. Et ils vont se retrouver hors radar, et ce sera d'autant plus compliqué d'aller chercher ou trouver ceux qui ont vraiment des problèmes de radicalisation, etc. Parce que dans tout pataquès de tous les enfants qui vont se retrouver hors radar, qu'est-ce que ça va être presque pire.
Ils vont se mettre dans des situations, d'abord, est-ce qu'ils ont les moyens de faire tout ça, si tu veux, tu vois. Et ensuite, quand ils nous disent c'est son motif médical, ça veut dire quoi, le motif médical ? C'est souvent des pathologies, attention, qui ne connaissent pas les enfants précoces, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, les enfants qui sont harcelés. Le parent a le choix, à un moment donné de sa vie, de dire, ok, Coco, tu restes à la maison, prends un CPC, un cours par correspondance, qui sont super bien foutus, tu fais apprentissage autonome comme Aurélie, tu prends une école démocratique pour que le gamin, si tu veux, s'apaise, s'élève. Donc comment est-ce qu'ils vont tracer ça? Donc tu vas faire des certifs médicaux sur certifs médicaux, des contre-bilans, des avis de neuropsy parce que l'enfant est précoce, mais là il n'est pas prêt. Ils vont se faire chier alors qu'ils ont tout en place, que les inspecteurs qui contrôlent les familles. Moi ce qui me choque c'est que l'EN nous balance des chiffres alors que ceux qui sont sur le terrain c'est les inspecteurs qui ont sur l'IEF des rapports dithyrambiques. 97% des contrôles sont hyper satisfaisants. Ça, on ne le dit pas. Donc, qu'ils fassent confiance aux inspecteurs des académies pour faire remonter les infos. Que l'enfant qui est en danger, quand tu lis la loi d'avant, pas celle-ci là, qu'ils veulent réformer, ils reprennent le code pénal, mise en danger des mineurs, tu as boum, 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 déchéance des droits civiques, tôle, amende, ça se cadre depuis des décennies, tu vois. Et donc, il y a quelque chose qui nous fait sourire, mais qui est quand même dangereux, c'est que ils sont partis dans une bataille médiatique. Ils sont au radar, faut qu'on les trouve. Quand t'écoutes Marlène Schiappa, là, qui sort, que les petites filles, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'elles ont dit, les deux, là? Pas au radar, mais on les trouve pas. Ils sont des fantômes, enfants fantômes. Et tu te dis, mais entre les médecins, la CAF, parce que la CAF, quand l'enfant n'est pas scolarisé, tu n'as pas droit, notamment l'allocation de soutien à la rentrée scolaire.
La RS,
ouais. Tu l'as pas. Ils ont des numéros de CAF. Quand t'as des gosses, t'as un numéro de CAF. Il y a les moyens, tu vois, donc il y a une espèce de quelque chose qui est dans l'air du temps et que je trouve dangereux et qui doit mobiliser les parents. Chacun fait ce qu'il veut, que tu mettes ton école à l'école, que ton gosse à l'école, ok. Mais cette liberté-là doit pouvoir se décliner en paix.
Surtout aujourd'hui, enfin, comme tu parles de liberté, surtout aujourd'hui avec le Covid, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup, nous on voit, parce que le gouvernement dit, oh, il y a beaucoup, beaucoup, de plus en plus d'enfants en IEF, mon Dieu, ça, tu vois, c'est un truc qui monte et c'est flippant. Évidemment, depuis le premier confinement, il y a des parents qui ont peur de la maladie, il y a des parents qui se sont rendus compte que c'était aussi cool d'être avec leur enfant à la maison.
Qui ne veulent pas que leurs enfants subissent ce qu'on
voilà,
est en train de leur
tous
faire.
Les, bah, voilà, tous les protocoles. Le port du masque, ou les protocoles, les machins. Ça, aujourd'hui, on est face apparemment à une épidémie mondiale, et on a ce recours-là, aujourd'hui. De pouvoir se dire, ok, mon enfant, il n'est pas bien à l'école temporairement, hop, il peut être retiré un an, six mois, ça c'est au choix de la personne. Mais si cette loi-là, elle passe, l'année prochaine, bah, walou, hein. Ton gamin, il reste à l'école, et peu importe ce qui s'y passe, peu importe les protocoles sanitaires, peu importe sa phobie scolaire, peu importe le harcèlement qu'il subit, peu importe tout ça, quoi.
Voilà, il y a aussi des parents, alors, parce qu'ils gonflent les chiffres, il y a 50 000 enfants, machin. C'est vrai que là, il y a un double effet. L'effet Covid sanitaire, donc les parents ont peur. En plus, les parents dits fragiles peuvent... temporairement avoir leurs enfants à la maison, ils ont un petit peu allégé le dispositif. Et t'oublie pas que depuis un an, il y a une obligation à 3 ans scolaires. Donc des parents se sont engouffrés là récemment. Donc effectivement, ça monte. Et ensuite, la crise sanitaire, il y a plein de contrôles qui n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons de confinement. Et donc, t'as l'impression ils mettent un petit peu en exergue. C'est un bazar. Tout le monde est. C'est pas vrai. Il y a aussi des causes, tu vois. J'ai envie de te dire systémiques. Qu'il faut aussi prendre en compte. Et aussi, il y a des enfants, l'école marche quand même par groupe classe, par tranche d'âge. T'es né en 2007, t'es en telle classe. Machin, t'es en telle classe. Des gamins, ça leur va pas. Mon gamin précoce, il s'emmerde à l'école. T'as le même référentiel pour apprendre. C'est le même devoir, le même bouquin, le même truc. C'est ultra séquencé, tout change de classe toutes les 45 minutes. Il y a des enfants qui évoluent vachement mieux dans un contexte de rythme, à leur rythme. Ça n'empêche pas qu'ils sont contrôlés, qu'ils apprennent des trucs et que voilà. Et je peux te garantir que les contrôles, c'est pas non plus une partie de plaisir. Il vient quand même 2 heures quoi, à la maison. Hein. T'as la mairie qui vient, ensuite t'as l'inspecteur qui vient avec un conseil pédagogique. Ils viennent 2 heures. Parfois, ils demandent d'avoir les chambres. Enfin, c'est pas non plus ultra léger quand t'es contrôlé. Donc, c'est un vrai engagement parental, c'est un vrai choix. On réfléchit à pourquoi on le fait. Dans quelles conditions on sait qu'on va être contrôlé sur les supports pédagogiques, sur la vie de l'enfant. Est-ce qu'il est socialisé? Est-ce qu'il fait du sport? Bon. On n'est pas juste des zozos, tu vois, voilà.
Puis on pourrait se dire que si le gouvernement se rend compte qu'il y a plus, imaginons que les chiffres ont vraiment augmenté avec toute une série de contextes, qu'ils aient plutôt envie de comprendre pourquoi les parents n'ont plus envie d'amener leurs enfants ou les enfants n'ont plus envie d'aller à l'école, tirer des constats, demander aux personnes concernées pourquoi elles le font. Et les raisons, elles sont multiples. Elles sont, comme vous avez dit, ça peut être mon enfant est harcelé, en fait, il pleure tous les jours pour aller à l'école. Ça peut être
pour l'instant,
son
les
handicap
n'est
pas pris en compte.
Les gens considèrent l'élève, c'est souvent pour les gamins qui sont sportifs ou musiciens. ils ont une scolarité partielle parce qu'ils font, ils sont en club. Donc. Mais c'est pas que ça. Il faut que les gens comprennent que c'est pas aussi restreint. Il y a une espèce d'amalgame entre soit hyper catho, soit complètement bobo. Tu vois, les gens ont une image de l'IF un petit peu hors sol, ce qui n'est pas du tout le cas. Et souvent, c'est des gamins qui sont vachement chouettes, hyper curieux. Parce que je veux dire un truc, H20, quand tu fais école à la maison H24 avec ton enfant, tu ne peux pas. Il est obligé d'être socialisé. Il n'est pas enfermé chez... C'est impossible pour toi, pour lui. Donc, ils sont souvent bien plus curieux, bien plus de clubs. Ils font des comptes. Ils sont ultra... bien plus que les gamins qui sont à l'école, quoi.
Et du coup, il en est où cette proposition de loi ou ce projet de loi, ouais. Parce que je sais jamais, il y a deux termes un peu différents, ça dépend. Je crois que c'est un projet de loi quand ça vient du gouvernement, et c'est une proposition de loi si ça vient d'un député. Il me semble que c'est ça la différence.
Oui. Okay.
Donc là, c'est un projet de loi.
Ok, peut-être. Je sais pas, nous on dit proposition, mais c'est peut-être pas du tout le mot.
Non, c'est un projet qui est présenté par un ministre.
Ce qui est très différent, parce qu'une proposition de loi, suivant de qui elle vient, en fait, elle a très peu de chances de passer.
Ah, oui,
un projet de loi... ça passe généralement.
Ah ouais, merde, c'est con, c'est un projet de loi. Ok, bah du coup, c'est un projet de loi qui est en ce moment au Conseil d'État, jusqu'à jeudi. Donc, c'est-à-dire qu'ils discutent, si j'ai bien compris, c'est consultatif, donc ils discutent de la constitutionnalité surtout de la loi. Parce que, enfin, de cette partie de la loi, des articles dont on parle nous, parce que la loi, elle a plusieurs articles. Là, nous, on parle de 4 articles concernant l'IEF et de son instruction.
Le champ éducatif.
Ouais, ce qui est autrement dans la loi, moi, je le connais pas, hein, par contre, sur le séparatisme et tout ça. Et donc, jusqu'à jeudi, et à partir du 9 décembre, elle sera déposée au Conseil des ministres.
Elle est présentée au Conseil des ministres. Bon, enfin, bon, comme on sait que le Conseil des ministres, c'est vraiment une chambre en ce moment. Ce qui est emmerdant, c'est qu'on est en état d'urgence. On sait que parfois, ils peuvent passer des lois qui peuvent complètement réduire la navette parlementaire. On a un peu peur de ça, que ça passe même par ordonnance. Mmh. On sait très bien que en ce moment, le Conseil des ministres, il ne fait que valider des trucs. Ça... Donc, il y a un gros mouvement là. Il y a vraiment beaucoup d'assos qui ont rencontré le ministère. Il y a un gros mouvement là. Enfin, faut quand même que les gens comprennent. Il y a beaucoup de parents qui rencontrent leurs députés. Les gros assos ont rencontré le ministère éducation et intérieur à plusieurs reprises. Il y a des pétitions, donc ça se bouge. Hein. Donc elle est présentée en Conseil des ministres, elle devrait partir en débat parlementaire début de 2021. Donc elle part en commission des lois à l'Assemblée, c'est amendé, et elle passe en vote public entre députés en séance publique dans la suite, donc début 2021. Elle passera après au Sénat, tu vois, la navette parlementaire. Donc on espère qu'elle sera respectée, cette navette. Amendements seront...
Enfin, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que tu disais, on a pas mal rencontré nos députés, nos sénateurs, ici et en France, quoi, et si la navette est respectée, on va dire, c'est pas acquis, quoi. Hein. Il y a pas mal de députés, même LREM, qui sont pas du tout pour la destruction de la liberté d'instruction, quoi.
Et vous avez vu nos députés à nous
L'Arsonneur, ouais, je l'ai vu, moi.
Et alors ?
Il est totalement ouvert. Lui, il est pas du tout pour... Lui, il est pour le maintien de l'IEF, quoi. De l'instruction en famille et de la liberté d'instruction.
Ouais, de toute façon, il peut dire un petit peu ce qu'il veut. Lui, il va pas à l'Assemblée, donc... c'est pas comme s'il était vraiment député.
Ah ouais, ça, je sais pas. Je suis pas à l'Assemblée, mais... après, moi, j'y connais pas grand-chose. Il nous a dit qu'il était plus LR... Enfin, il est à Agir Ensemble, je crois. Il fait partie du groupe Agir Ensemble. Je sais pas si ça vous parle. Okay.
Non, mais
non, moi non,
il va pas à l'Assemblée, en fait. Donc,
Il connaissait pas ses dossiers aussi, hein, ouais, notamment sur le militaire.
Normalement, ce qu'on avait discuté un peu avec Vega, déjà, le gros espoir, disons, parlementaire, c'est des sénateurs qui seront là pour représenter, en gros, l'instruction catholique libre. Donc pas forcément...
tu veux parler du Rassemblement National, quoi.
Non, des sénateurs de droite, en gros, hein.
Ah, et oui,
des,
bah,
même des
sûr.
Sénateurs de gauche, mais qui ont des liens très avec certaines institutions catholiques, et qui, eux, laisseront pas forcément passer ça. L'Archer s'est déjà positionné contre la loi.
Bah, tu sais, quand tu regardes un peu le système français, t'as les écoles privées, elles sont en grande majorité catho. Donc il faut s'engouffrer aussi là-dedans. Les cathos ont réussi à avoir des écoles hors contrat, sous contrat privé, avec des organismes OGEC appellent hors contrat. Donc depuis 150 ans, la France, elle a un mode d'instruction qui est comme ça. Depuis Jules Ferry, depuis toutes les conventions. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils vont balayer en 3 mois parce qu'il y a eu des horreurs dont on est tous choqués, dégoûtés, l'amalgame est trop dangereux. Il est trop dangereux, il veut rien dire. Ils vont mettre au banc des familles, des enfants qui sont heureux. Ils vont carrément les mettre au banc, les stigmatiser. Pour quelle raison, pour quel fondement, prouve-moi que ces enfants-là sont hors sol. Certains le sont, mais c'est leur boulot de le faire, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils appliquent la loi, qui est vachement serrée. Voilà, et qu'ils arrêtent de faire circuler des fausses idées, des enfants fantômes. Et c'est abominable de dire ça.
Après, ce que tu dis, c'est vrai que oui, on sait bien qu'on va s'appuyer, ou qu'en tout cas, ceux qui vont nous défendre, ça va être ceux qui sont plus droite, voire même un peu plus encore à droite. Et on a bien vu que voilà, ceux qui sont plutôt... nous parlons juste de LFI, pour eux, c'est l'école publique point barre, hein, par exemple. Donc ouais. On sait que si on va s'appuyer sur certains et pas sur d'autres.
Étrangement, les gens de gauche sont très, très... C'est marrant, ils sont très, très... l'école de la République, c'est vachement bizarre. Mmh. Les Insoumis aussi, hein. Et le PS, ils sont très pro-école publique, ce qui a une vraie légitimité, si tu veux. C'était l'accès pour tous. Mais là, justement, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, c'est que le principe d'accès pour d'égalité, puisque tu vas créer à deux vitesses, école privée, machin, ou hors contrat cher, tu vas créer un principe d'inégalité d'accès. Tu vois ? Ou t'as pas les sous pour te mettre ça, ou par maillage territorial, il n'y a pas d'école. Donc, ils vont créer forcément une éducation à deux vitesses. Et un problème d'accès, d'égalité de chance. Donc déjà, rien que ça, il faut qu'ils y réfléchissent, quoi.
Donc du coup...
Pour
vous soutenir, comment
on vient samedi 5 décembre à 13h30, place Strasbourg, et on manifeste ensemble.
Voilà. Vous avez parlé de pétition aussi.
Ouais, il y a une pétition qui est en ligne. Alors, j'ai pas l'adresse de la pétition dans la tête, ni le nom.
Non, là, dans un vieil article de
Journal. Donc on mettra le lien. Voilà, je veux bien. Ouais. Du coup, il y a une pétition. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On peut aussi, si on est sensible à ça, en tant que famille lambda, citoyen, ouais, évidemment, discuter avec. Nos députés, nos sénateurs, qui qu'on soit, on a tout à fait légitimité à interpeller les personnes qui sont élues par nous, en fait, par exemple.
Et puis, il faut quand même rappeler, il n'y a pas tellement de gens très cotes. Enfin, les gens, ça cherche toujours des exemples, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais été instruits. T'as pas des noms, Amélie, là ? Il y a Dormesson qui n'a jamais été machin, il y a Dormesson,
ah, oui.
Il y a...
Ouais, la visibilité, quoi.
La visibilité, il y en a de moins en moins, parce que c'est, voilà, c'est pas très intéressant, puisque c'est une toute petite minorité, même pourcentage, tu vois, mais qui a le mérite d'exister, et très souvent, les enfants qui sortent d'IEF, ils sont bien dans leur pompe, quoi. Ils sont souvent aussi vachement brillants. Et ça fait peur à l'EN, parce qu'ils sont... ils ont souvent 2 ans d'avance, tu vois. Sur les programmes un peu...
Je sais pas s'il y a des différences entre les gens qui vont à l'école ou pas à l'école. Si tout le monde est content comme ça, moi je m'en fous.
Oui, mais quand tu parles de Blanquer qui veut mettre les enfants dans les clous en socle commun, t'apprends à lire, t'apprends à écrire, t'apprends à penser. Tu vois, c'est un peu ça le socle commun. Les gamins qui sont en IEF, souvent c'est des gamins qui sont qui ont un sens civique plus développé, qui savent penser, qui savent, tu vois, qui sont bien intégrés et qui sont souvent brillants. Vu qu'ils apprennent à leur rythme, ça rentre plus vite.
Ouais,
c'est pas ramassé.
Donc, merci d'être venu nous expliquer tout ça.
Merci à vous.
On rappelle, du coup, c'est samedi 5 décembre, place Strasbourg.
Ouais, 13h30.
13h30.
Yes.